Rebienvenue à Sans détour. On termine l'émission avec la revue de presse. Et on commence en France où il y a un malus, donc une taxe pour le poids et le CO2, donc le dioxyde de carbone, qui, depuis le 1er janvier 2026, va être appliqué au transport adapté lorsque celui-ci sera revendu. Et là, je vous explique, c'est que quand une personne fait adapter un véhicule, donc ajoute de l'équipement dans un véhicule pour lui permettre de conduire malgré une incapacité, et à taxe sur le poids et le CO2, donc qu'on appelle le malus en France, n'est pas appliqué sur l'achat du véhicule. Parce que, évidemment, les personnes en situation de handicap n'ont pas nécessairement le choix d'acheter un véhicule qui est plus lourd et qui pollue plus, étant donné qu'on parle de camions, de vannes dans la plupart des cas, pour être capable d'avoir l'équipement requis, de prendre un fauteuil roulant, par exemple, à l'intérieur. Donc, les petites voitures ne peuvent pas répondre à ces besoins-là. Donc, une personne qui achète un véhicule pour le faire adapter, donc qui est en situation d'handicap, qui a besoin de faire adapter un véhicule, ne paie pas cette taxe-là. Par contre, depuis le 1er janvier 2026, les véhicules adaptés, lorsqu'ils sont revendus par une personne en situation de handicap, mais qui n'ont plus à l'intérieur, donc qu'on démantèle la partie adaptée du véhicule, et donc la personne veut revendre, par exemple, sa vanne pour pouvoir en acheter une autre à un autre usager qui, lui, n'est pas en situation de handicap, donc il n'a pas besoin de l'adaptation sur le véhicule, et la taxe va être chargée à l'autre personne. Ce que ça crée, en fait, selon plusieurs organismes communautaires en France, c'est que les voitures deviennent plus difficiles à revendre pour les personnes en situation de handicap qui ont besoin de revendre cette voiture-là pour se payer une nouvelle voiture adaptée. Parfois, c'est parce que la voiture donc devient trop vieille et donc ne répond plus aux besoins de la personne ou aux normes, parce qu'il y a des normes à suivre. On peut adapter n'importe quel véhicule. Parfois, c'est parce qu'évidemment, la personne veut changer de véhicule, a besoin de changer de véhicule, ou ses besoins au niveau des adaptations changent. Parfois, la personne veut simplement changer de véhicule, comme n'importe qui, hein, voudrait changer de véhicule après quelques années, ce qui est évidemment un droit. Par contre, quand on revend le véhicule à une personne qui n'est pas en situation de handicap, qui n'a pas besoin d'accommodement, à ce moment-là, la taxe poids et CO2, donc la taxe malus, va s'appliquer. Ce que ça fait, en fait, là, c'est que ça crée un problème au niveau des personnes en situation de handicap qui ont de la difficulté à revendre ces voitures. Qui auront de la difficulté à revendre ces voitures-là selon les organismes communautaires. Et ça crée une injustice parce que ces personnes-là vont devoir donc négocier à la baisse le coût des véhicules pour être capable de les vendre, parce que les personnes qui achètent un véhicule vont devoir payer plus cher pour les taxes, donc vont négocier à la baisse le prix du véhicule. Ce que ça fait, ça maintient encore une fois les personnes en situation de handicap dans un état plus précaire, parce que ils n'ont pas nécessairement le bon prix pour le véhicule qu'ils revendent, étant donné cette taxe-là. Donc, les organismes communautaires demandent de revoir cette nouvelle politique-là qui a été mise en place donc le 1er janvier 2026 pour mieux réfléchir aux conditions que ça va créer pour les personnes en situation de handicap, et demande éventuellement qu'on enlève cette nouvelle politique-là, comme c'était le cas avant. Donc, le malus n'était pas chargé sur les véhicules à la revente, parce que ça crée une situation d'injustice pour les personnes en situation de handicap en France. Donc, ce sera à suivre, à savoir s'ils auront assez de poids là pour faire continuer, pour faire avancer, je devrais dire, ce dossier. Par la suite, donc, on parle d'une association qui saisit en justice des écoles pour l'embauche de AESH, donc d'accompagnants pour les personnes en situation de handicap. C'est une première, en fait. C'est la première fois qu'on saisit en justice des écoles pour les obliger à engager des accompagnants pour les personnes en situation de handicap, les élèves en situation de handicap dans dans ce contexte-là, on le sait, on en a parlé, puis je vais en reparler tout à l'heure, vraiment un problème au niveau d'embauche de ces personnes-là, parce que les conditions sont pas bonnes. Parce qu'on coupe les heures beaucoup, on coupe les services à ces personnes-là, et donc on a beaucoup de difficultés à engager ces personnes-là, même lorsque des postes sont ouverts, il y a peu de gens qui y appliquent parce que ce ne sont pas des métiers qui sont valorisés. De plus, pour ouvrir des postes, ben, ça prend de l'argent pour payer ces gens-là, et évidemment, il y a pas assez d'argent qui est investi, l'argent qui avait été investi est de plus en plus coupé, toujours en France. Donc, on a de moins en moins de postes disponibles malgré les besoins des personnes en situation de handicap, des élèves en situation de handicap, donc qui se retrouvent sans accompagnement à l'école et qui finissent finalement par être déscolarisés, donc ne plus pouvoir aller à l'école parce qu'ils n'ont pas d'accompagnatrice ou d'accompagnateur avec eux. Étant donné qu'on n'a pas l'argent qu'il faut pour que ces personnes-là soient embauchées. Et donc, pour la première fois en France, il y a une association de parents d'élèves handicapés qui va attaquer 10 académies en France pour les obliger à engager des personnes accompagnatrices pour leurs enfants. C'est la première fois qu'on va en justice, qu'un collectif va en justice pour obliger des académies, donc des écoles, à engager des personnes accompagnatrices, parce que c'est un droit pour les élèves, évidemment, d'être à l'école, et que si on n'a pas ces accompagnateurs-là, bien, je l'ai dit, les enfants sont déscolarisés, ce qui ne devrait pas, évidemment, se produire, étant donné que l'école est un droit. Dans le même ordre d'idées, il y a une demande qui a été faite, donc, pour avoir un statut de fonctionnaire pour les AESH, donc pour les accompagnateurs, accompagnatrices pour personnes en situation de handicap, pour les élèves en situation de handicap, donc que ces personnes-là soient reconnues comme fonctionnaires de l'État, ce qui leur donnerait un meilleur salaire, ce qui leur donnerait de meilleures conditions de travail. Mais le Sénat a refusé ceci parce que, bon, ça coûterait trop cher. Aussi parce que ça amène, par exemple, là, des obligations comme un travail à temps plein, ce qui n'est pas toujours compatible avec les personnes accompagnatrices qui, parfois, ne travaillent pas à temps plein. Donc, on dit au niveau du Sénat que ce n'est pas réaliste et que ça vient avec des obligations qu'on ne pourrait pas respecter dans le cadre d'un emploi comme accompagnateur, accompagnatrice, dont, je le disais, donc, dont le fait d'avoir un emploi à temps plein obligatoire. Donc, à voir pour la suite, mais pour l'instant, ça a été refusé là, par le Sénat en France, donc on n'aura pas de nouvelles à court terme sur ce dossier. On s'en va maintenant aux États-Unis, où on parle de déficience intellectuelle, de peine de mort, parce que il y a vraiment, dans un arrêt marquant, donc en 2002, la Cour suprême des États-Unis avait conclu que le 8e amendement de la Constitution, qui prohibe tout sentiment cruel et inhabituel, interdit l'exécution de condamnés en situation de déficience intellectuelle. Cependant, on se regroupe donc aux États-Unis parce que il faut savoir pour 9 juges de la Cour suprême à quel moment on considère qu'une personne est en situation de handicap intellectuel et donc qu'elle ne peut pas être condamnée à peine de mort parce qu'elle n'est pas entre guillemets responsable ou totalement responsable de ses actes étant donné sa déficience intellectuelle. Donc on parle évidemment de tests de quotient intellectuel, mais est-ce que c'est vraiment fiable? Est-ce que c'est le seul test? Est-ce que le seul test devrait être suffisant? Est-ce qu'on doit inclure des aspects sociaux à ça? Est-ce qu'on met un point particulier, donc, à un certain chiffre. Ces personnes-là ne peuvent plus avoir accès, ne peuvent plus être condamnées à peine de mort. Et si oui, quel est ce chiffre-là? Est-ce qu'on se fie seulement à ce chiffre-là? Donc, c'est vraiment tout ça qu'il faut réfléchir au niveau des États-Unis. Et puis, effectivement, Par exemple, un cas en Alabama où un monsieur a été condamné sur la base d'un score de 72 de quotient intellectuel qu'on jugeait comme étant suffisant pour que la personne soit reconnue responsable et donc jugée pour la peine de mort. Et donc, ça crée des questionnements parce que 72, ce n'est pas très haut. Et il faut savoir, bon, est-ce qu'une personne à 71 aurait été emprisonnée à vie plutôt que condamnée à mort? Où est-ce qu'on met où est-ce qu'on met le point et tout ça et sous quelles conditions? C'est tout un débat hein, pour les personnes avec des déficiences intellectuelles, pour leurs droits fondamentaux, évidemment, et aussi pour une question de respect de ces droits-là pour les personnes qui ont des problèmes de déficiences intellectuelles. Et on sait malheureusement qu'ils sont particulièrement présents dans les prisons. Ils sont surjudiciarisés, ces personnes-là. Donc, c'est vraiment une question à se poser, malheureusement, là, pour aux États-Unis. Donc, la Cour suprême s'en est saisie et on verra ce que ça donne dans les prochaines semaines. C'est vraiment un enjeu qui est central hein, pour le respect des droits des personnes avec des déficiences intellectuelles et qui n'est pas simple hein, parce que c'est aussi des personnes, évidemment, qui ont commis des crimes importants. Donc, il faut aussi respecter les victimes dans tout ça. Donc, il faut faire la juste part des choses pour que tout le monde y trouve son compte. Et ce n'est pas chose facile, ce n'est pas noir ou blanc. Donc, ce sera à suivre dans les prochaines semaines aux États-Unis. C'est un débat qui évidemment, polarise à la fois la gauche et la droite, là, donc les deux partis, les démocrates et les républicains, sur la question. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Sans détour. Bonne semaine!